Bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver dans cette émission d'une heure où on va un petit peu parler de l'actualité scientifique. Il y a eu encore pas mal de choses que nous allons évoquer dans cette émission. Mais nous allons faire l'éphéméride comme tous les samedis. Aujourd'hui, 3 octobre déjà, ça passe vite. En 1942, c'était le lancement de la première fusée V2. Déjà en 42, vous voyez, ça passe. Naissance de John Gorey, né le 3 octobre 1803, médecin, inventeur, humaniste américain, considéré comme le père de la réfrigération et du conditionnement d'air. Il a été appauvri hein, parce que ses recherches, elles étaient quand même assez coûteuses et John Gorey tente de lever des fonds afin de construire sa machine à faire de la glace. Mais l'entreprise échoue quand son associé meurt. Il est humilié, il est critiqué, il est ruiné financièrement. Il est de santé fragile, il meurt dans l'indifférence en 1855, mais en tout cas, son invention, elle, va perdurer, John Gorey. Décès le 3 octobre 1932 de Maximilian Franz Wolff, astronome allemand, l'un des pionniers de l'astrophotographie. Il initia l'utilisation des techniques de l'astrophotographie pour accélérer la découverte des astéroïdes par rapport aux méthodes visuelles, en conséquence de quoi la vitesse de découverte s'est considérablement accrue. Parce qu'en effet, selon le temps d'exposition de la photographie, les astéroïdes apparaissent sous forme un petit peu de stries à cause de leur déplacement sur la voûte céleste et que l'on pouvait comparativement faire par rapport aux étoiles. Maximilian Wolff, décédé le 3 octobre 1932. C'était l'éphéméride de ce jour. On va commencer par cette annonce qui, quelque part, ne nous surprend pas. On apprend que dans l'Union européenne, 13% des morts sont liées à la pollution. Alors, ça ne nous surprend pas du fait que la pollution soit responsable de décès, mais quand on se rend compte qu'à peu près un décès sur 8 est dû à la pollution, c'est quand même assez effrayant. C'est un rapport de l'Agence européenne de l'environnement pour qui la crise sanitaire actuelle est un signal devant accélérer la prise de conscience de la relation entre environnement et santé. L'émergence de ces agents un peu pathogènes, zoonotiques, comme le cas de la Covid-19 par exemple, est lié à la dégradation de l'environnement et aux interactions entre l'homme et les animaux dans le système alimentaire. C'est ce qu'affirme l'étude qui souligne que les Européens sont en permanence exposés à des risques environnementaux. Pollution de l'air, même si elle a nettement diminué, elle demeure quand même le premier facteur de mortalité. Il y a aussi la pollution sonore et aussi la pollution par les produits chimiques. Dans les 27 pays de l'Union européenne, on a considéré qu'il y avait 630 000 décès qui pouvaient être attribués directement ou indirectement à un environnement pollué. C'est en 2012, ces chiffres, selon les derniers chiffres disponibles. On n'en a pas des plus récents. C'est ce qu'indique le rapport qui relève d'importantes différences entre l'Ouest et l'Est de l'Europe et aussi des importances par rapport au niveau socio-économique. Alors, en tête de peloton, c'est la Roumanie qui déplore près d'un décès sur 5 lié à la pollution, tandis que les meilleurs élèves, entre guillemets, sont la Suède et le Danemark qui enregistrent un décès sur 10. Principalement liés à des cancers, des maladies cardiovasculaires et respiratoires, ces morts pourraient être évitées en éliminant les risques environnementaux mauvais pour la santé. C'est ce que souligne l'Agence européenne de l'environnement dans son rapport. Les personnes les plus pauvres sont exposées de manière disproportionnée à la pollution et aux conditions météorologiques extrêmes, y compris les vagues de chaleur, y compris le froid extrême. Et cela est lié à l'endroit où ils vivent, à l'endroit où ils travaillent, à l'endroit où ils vont à l'école, souvent dans des zones socialement défavorisées et des quartiers en périphérie des grands axes de circulation. Point positif pour l'environnement européen, c'est la qualité de l'eau qui est jugée excellente dans plus de 85% des cas pour les eaux de baignade. Et en ce qui concerne l'eau potable, 74%, donc trois quarts des zones d'eau souterraine, présentent un bon statut chimique. Alors, conclusion, selon l'agence, pour améliorer la santé et l'environnement en Europe, il faut publiciter les espaces verts, les lieux d'activité physique, les lieux de détente, mais aussi d'intégration sociale. Tous ces lieux qui rafraîchissent les villes pendant les canicules, qui vont atténuer les inondations, qui vont réduire la pollution sonore et qui soutiennent aussi la biodiversité urbaine. Enfin, les parcs, les jardins se sont avérés précieux pour la santé mentale et le bien-être pendant la pandémie de Covid-19. C'est risques, souligne l'agence européenne. La réduction de la circulation routière, la baisse de la consommation de viande et le retrait des subventions aux énergies fossiles comptent parmi les autres propositions de ce rapport. Donc on va voir ce qui va être mis en place. Mais en tout cas, voilà, c'est assez un constat assez glaçant d'apprendre que la pollution serait responsable d'un décès sur 8 en Europe. On imagine dans d'autres régions du monde les impacts qu'il peut y avoir, bien évidemment. On parlera de la Chine, on va parler un petit peu de tout, de médecine, et puis il paraît qu'on peut désormais voir à travers les murs. Mon Dieu, je pense que cette émission va être assez intéressante. Et en plus, on va commencer avec Noir Désir sur l'antenne de Graphite.
Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun Concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si au perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai allongé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus le verger, et délaissant les grands arbres.
Ah bah ça c'est original, ça s'est arrêté tout seul. C'est une première. Heureusement que j'étais là quand même pour reprendre. Je sais pas, j'ai dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas. Je suis désolé. Bon, je vous promets qu'on va réécouter Noir Désir tout à l'heure. Bah écoutez, on va juste parler de la Chine en attendant, le temps que je remette le titre, je suis désolé. On va parler de la Chine qui a testé en toute discrétion un drone spatial réutilisable. L'engin a été lancé en début du mois de septembre après un vol orbital de 2 jours suivi par le réseau de surveillance spatiale des États-Unis. Il est retourné se poser sur Terre. Il a donc atterri 2 jours après, aussi discrètement qu'il a été lancé, dans une base aérienne secrète près du polygone d'essai nucléaire du Lop Nord. Alors, sans surprise, il n'y a aucune information officielle qui n'a été communiquée au sujet du lancement de l'engin spatial utilisé de sa mission. Il y a un communiqué qui s'est borné à dire que ce véhicule spatial doit servir, je cite, à tester des technologies liées à la réutilisabilité pour une utilisation pacifique de l'espace. Fin de citation. Alors, on notera qu'au niveau de sécurité inhabituel, entourait quand même ce lancement, de sorte qu'aucune photo ou vidéo du lancement et du véhicule n'a été publiée sur les réseaux sociaux. On se souvient qu'en 2017, la Chine avait de toute façon déclaré son intention de tester un véhicule spatial réutilisable en 2020. Donc on y est, en 2020. L'idée, c'était de disposer d'un engin aux capacités logistiques et opérationnelles similaires à d'autres, similaires à ce qui se fait aux États-Unis, qui est notamment le X-37B. C'est le seul véhicule spatial réutilisable au monde qui suscite toujours autant de curiosité et d'inquiétude en raison de la confidentialité qui entoure ces missions. Et donc, l'énervement des Russes et des Chinois qui soupçonnent à raison les Américains d'un usage du véhicule géré par les militaires pas aussi scientifique et pacifique qu'ils voudraient le dire. Suspicion, donc voilà, effectivement, en plus vous avez Américains, Chinois et Russes, alors évidemment c'est pas simple. Ce véhicule est reparti dans l'espace en mai 2020 pour une 6e mission. Ça, c'est au niveau des Américains. Donc, en ce qui concerne le véhicule spatial chinois, sans aucune information sur ses principales caractéristiques, on ne sait pas la forme, on ne sait pas la dimension, la motorisation, ses capacités orbitales, on ne peut que supposer qu'il s'agit d'un véhicule qui émane d'un programme spatial connu. Il pourrait donc s'agir de la version spatiale d'une mission qui a été mise en place en 2017, et qu'il n'est pas exclu que ce véhicule soit un démonstrateur de vol orbital et de rentrée atmosphérique. Ça préfigure en fait un véhicule spatial opérationnel. C'est à suivre, mais ce qui est assez intéressant, c'est ce mystère autour de cet engin spatial volant que la Chine a testé avec succès. Voilà, il a décollé, il a atterri, et puis on attend d'en savoir plus. Ça préfigure un petit peu, de toute façon, la conquête spatiale qui nous attend dans les tout prochains mois, même maintenant. On est maintenant dans cette décennie 2020, et on sait très bien que la décennie 2020, d'un point de vue spatial, va être passionnante. Et là, voilà, ça rajoute encore une pierre dans cette course. Et ça va être intéressant de voir. On ne parle pas trop des Européens pour l'instant, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Allez, on va remettre Noir Désir. J'espère que cette fois, on va pouvoir l'entendre en entier. J'en suis désolé.
Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun Concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si haut perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. Des escalators aux chariots ailés, j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai allongé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus le verger. Et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun walala ne vaut le détour. Aucun astronef ne s'y attarde. Aucun navire n'y va, sinon toi. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers. Et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun Concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va. Ses méandres, je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus le verger, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté.
Aucun Express était Noir Désir sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique et pour savoir s'il est possible désormais de voir à travers les murs. Ça ressemble à de la science-fiction, mais si on améliore un système un peu semblable à celui que les voitures autonomes utilisent pour essayer de voir entre guillemets le monde, eh bien les chercheurs de l'université de Stanford aux États-Unis sont parvenus à reconstruire des scènes cachées en trois dimensions, le tout grâce à un algorithme redoutablement efficace et à quelques photons. Ils ont pu voir à travers une paroi en mousse d'environ 2 cm d'épaisseur. L'invention pourrait avoir des applications très pratiques dans le domaine des voitures autonomes justement, parce qu'elle pourrait les aider à voir dans le brouillard par exemple. Les satellites pourraient quant à eux voir la surface de la Terre à travers les nuages. Alors, question, comment ça marche? On utilise pour cela un laser qui est utilisé pour essayer de scanner, entre guillemets, le mur que l'on a. Ça peut être un mur de mousse, donc, par exemple. Et occasionnellement, il y a un photon qui traverse le mur et qui va heurter un objet caché derrière. Puis, il repasse à travers le mur pour être détecté par un système ultra sensible. Il y a un algorithme qui se base ensuite sur les quelques photons qu'on va recevoir et des informations sur l'endroit et le moment où ils ont frappé le détecteur. Et on va essayer de reconstruire une image de l'objet en 3D. Il y a d'autres systèmes qui sont capables de voir à travers le mur qui existent déjà, mais ils sont moins efficaces. Certains ont par exemple besoin de savoir au préalable à quelle distance se trouve l'objet derrière le mur. Là, c'est plus le cas. Nous collectons tous les photons. Alors, les photons, c'est ce qui diffuse la lumière. Nous collectons tous les photons diffusés pour reconstruire notre image. C'est ce qu'explique David Lindell, qui est l'auteur principal de cette étude, dans un communiqué de l'université de Stanford. Alors, au cours des essais en laboratoire, il aura fallu 1 minute et 1 heure de balayage laser pour obtenir un résultat satisfaisant. C'est masculin. Cette durée dépendant de la luminosité de l'objet caché. Et l'algorithme de reconstruction, il est quant à lui capable de donner des résultats en temps réel et de fonctionner sur un simple ordinateur portable. On n'a pas besoin d'avoir un matériel assez sophistiqué. Les chercheurs souhaitent désormais tester les capacités de leur système dans des circonstances un peu différentes. Lorsque l'objet il est pris dans le mur, par exemple dans le cas d'un épais brouillard, par exemple, ça pourrait être intéressant de pouvoir identifier cet objet. Donc, on peut voir à travers les murs. C'est pas encore totalement hyper performant, mais en tout cas, c'est des pistes vraiment intéressantes. On a compris les applications utiles pour les voitures autonomes. Et il faut quand même que ça soit totalement fiable, parce que si elle se met à rouler en plein brouillard, elle a intérêt à bien détecter ce qu'il y a derrière quand même. Ça, c'était une information assez technologique. Et il y a pas mal de choses qui se passent d'un point de vue technologique, notamment au niveau des voitures autonomes, bien évidemment. Autre chose, et là on va revenir à la fois sur un aspect plus médical, c'est savoir si vous vous sentez particulièrement sensible à la douleur. Et si c'est le cas, ça pourrait être à cause de vos racines néandertaliennes. C'est en tout cas ce que suggère l'étude de l'Institut Karolinska de Stockholm. Nous sommes en Suède, qui s'est associé à l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne. Et ils ont publié un article en juillet 2020 dans la revue Current Biology. Il y a les deux principaux auteurs de cette étude, Svante Paabo et Hugo Zeberg, qui ont découvert que les hommes de Néandertal étaient porteurs de 3 mutations au niveau d'un de leurs gènes. Et ce gène code pour une protéine dont le rôle est de transmettre les sensations douloureuses à la moelle épinière et au cerveau. Et donc, les 3 mutations détectées lors de cette étude ont pour effet de modifier la conformation de la protéine qui devient alors plus efficace pour transmettre la douleur. Ces mutations ont été retrouvées dans plusieurs génomes de Néandertal en Croatie et en Russie. Alors, ils expliquent, nous avons eu la chance de trouver des spécimens qui nous ont permis de déterminer des séquences entières de génome de bonne qualité. Et la même version du gène trouvée à plusieurs reprises dans ces séquences ont laissé penser aux chercheurs que celle-ci était courante et commune à toutes les populations néandertaliennes. Et donc, pour déterminer le rôle de ces trois mutations, les chercheurs ont exprimé la version néandertalienne de la protéine dans des œufs de grenouille et dans des cellules rénales humaines. Ce sont des organismes modèles qui sont assez utiles pour étudier en fait les effets sur le système nerveux. Ça, c'est pour comprendre un petit peu pourquoi ce protocole expérimental. Le résultat, c'est que la protéine était plus active dans les cellules qui avaient subi les trois mutations par rapport aux cellules qui n'avaient pas subi ces changements. Donc on a compris qu'il y avait bien un lien avec ce qu'il se passait au niveau de Néandertal. Les scientifiques ont ensuite cherché des hommes modernes avec la version néandertalienne de cette protéine. Et au total, on s'est rendu compte dans une base de données qui conserve les génomes d'un demi-million de Britanniques qu'il y avait environ 0,4% de ces participants à cette base de données qui possédaient une copie de ce gène muté. Donc ils sont quand même très très peu nombreux, mais ils existent quand même. Et les participants de l'étude, ils ont donc fait état de leurs symptômes de douleur. Et on s'est rendu compte que les porteurs de ce gène muté ont en moyenne plus déclaré avoir souffert dans leur vie par rapport aux autres. Et en d'autres termes, on se dit que les personnes qui ont hérité des mutations de ces anciens Néandertals auraient tendance à éprouver plus de douleur que les autres. C'est un premier exemple, explique justement Svante Paabo, de la façon dont nous commençons à nous faire une idée potentielle de la physiologie de l'homme de Néandertal en utilisant des personnes actuelles comme modèles transgéniques. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en étudiant les hommes d'aujourd'hui, on va essayer de comprendre un peu les hommes de l'époque. Les chercheurs appellent cependant à la vigilance concernant un petit peu l'interprétation de leurs résultats, parce que selon eux, leurs conclusions ne suffisent. Enfin, ça ne signifie pas nécessairement que les Néandertaliens auraient ressenti plus de douleur que les humains modernes, mais les sensations transmises par la protéine, elles sont traitées, modifiées dans la moelle opinière et le cerveau, et ça contribue également à une espèce d'expérience subjective de la douleur également. Donc, ce n'est pas totalement une corrélation totalement sûre, mais en tout cas, on a quelques liens qui permettent justement de se dire que une sensibilité accrue à la douleur chez l'homme moderne d'aujourd'hui pourrait être liée à ce gène muté néandertalien. C'est une étude intéressante parce qu'on ne parle pas nécessairement régulièrement dans cette émission de ce genre d'études génétiques à travers les différentes espèces humaines, et à l'heure actuelle, aucune donnée ne permet d'affirmer si les mutations ont persisté grâce à leurs aspects bénéfiques. En fait, les populations de Néandertaliens étaient réduites et leur faible diversité génétique pouvait favoriser le maintien de mutations nocives pour l'espèce. Alors, on va continuer ces études. Svante Paabo explique qu'il prévoit de séquencer les génomes d'une centaine de Néandertaliens pour apporter davantage de réponses à cette question. Mais voilà, c'est une piste intéressante et des études qu'on évoque très peu souvent dans ce genre d'émission. Allez, on va continuer à écouter un titre sur l'antenne de Graphite, parce que Graphite, c'est de l'information scientifique, mais c'est aussi de la musique, bien évidemment. À tout de suite, restez bien attentifs.
C'est ça qu'il faut.
Canazoé Orchestra sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Graphite sur graphite.net, c'est-à-dire sur le site internet. Vous avez même la possibilité de pouvoir télécharger tous les podcasts de l'émission, mais aussi sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme. Vous pouvez également suivre l'actualité de Graphite sur la page Facebook de Graphite, avec de plus en plus de possibilités de voir les émissions, je dirais, en direct et en vidéo, bien sûr, avec les Facebook Live. La semaine prochaine, nous ferons une émission sur la fête de la science, comme tous les ans. Alors, coronavirus oblige, la fête de la science prend une forme un peu particulière, une forme distancielle de visioconférence. C'est la grande mode hein, maintenant. C'est le télétravail de la fête de la science. Et on fera donc un petit point quand même sur l'actualité de la fête de la science qui démarre lundi, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, toute la semaine prochaine, et bien évidemment, l'Université de technologie de Compiègne participe à la fête de la science comme tous les ans. Rappelons que cette manifestation a débuté ici il y a déjà quelques années maintenant. J'étais en train de réfléchir, je crois que c'est 92, il me semble. En tout cas, il y a déjà assez longtemps. C'est une manifestation qui permet justement d'apprendre, de découvrir ce qui se passe dans les laboratoires et d'apprendre un peu quelques éléments de recherche actuels. Alors, au niveau de l'Université de technologie, il est intéressant de savoir sur quel domaine scientifique et technologique travaillent les enseignants, chercheurs, ingénieurs, techniciens de recherche. Donc c'est une bonne manière de se tenir informé de l'actualité et ça permet aussi de donner le goût de la science aux plus jeunes et de permettre également aussi, pourquoi pas, susciter des vocations chez eux. C'est la fête de la science, donc à partir de la semaine prochaine et comme tous les ans, alors on n'aura pas une émission spéciale au cœur de la fête de la science parce qu'il n'y a pas de village de la technologie cette année physiquement, mais on fera bien sûr un point sur le programme dans notre émission de la semaine prochaine et on fera aussi un point sur les attributions des prix Nobel également comme tous les ans, c'est un petit peu les deux marronniers que l'on a début octobre et je n'ai pas la date sous les yeux, je ne retrouve pas, mais il y a également la bourse au disque et au BD qui a lieu dans 15 jours, donc tenez-vous informés bien sûr sur les sites internet de Graphite. Alors, on va parler de Michael Moiseff. Il n'a jamais revêtu de scaphandre, il n'a jamais été dans l'espace, il est un peu comme nous tous, mais dans son laboratoire, il y a 1000 flacons à l'intérieur, il est basé près de Toulouse, il a reconstitué à la demande de la cité de l'espace l'odeur de la Lune. C'est un sculpteur d'arômes, comme il se définit. C'est un généticien qui a consacré sa vie à décortiquer les mystères de l'odorat et à produire, à partir de molécules, toutes sortes de senteurs, de fragrances, d'émanations. Il explique dans un article sur Futura Science, pour recréer l'odeur d'un sous-bois, par exemple, il faut d'abord s'y rendre. Est-ce qu'il y a de la mousse, du lichen, de l'humidité ? Je fais un inventaire, je rassemble mes éléments comme un peintre avec sa palette de couleurs, puis je travaille sur les proportions pour essayer au maximum d'être dans la finesse. Mais pour la Lune, la cité de l'espace à Toulouse n'a pas voulu me payer le voyage, dit-il, avec humour. Alors, seule opportunité pour ce sculpteur d'arômes, comme il se définit donc, c'est le recours aux descriptions faites par différents astronautes ayant marché sur la Lune, notamment Neil Armstrong. Faute d'oxygène sur la Lune, il ne pouvait évidemment rien sentir, mais une fois de retour dans le module, l'odeur de la poussière qui était accrochée à son scaphandre lui a rappelé la poudre noire brûlée des vieux fusils, dit-il. Alors, comment la reproduire ? Michael Moiseff décide de faire lui-même exploser dans ses propres casseroles de la poudre noire. Et après plusieurs tentatives ratées, et puis pas mal de frayeurs également, il réussit à en capturer un petit dépôt brûlé et puis, une fois l'odeur recherchée en tête, eh bien, l'alchimiste des temps modernes a rassemblé plusieurs éléments dans son laboratoire pour un résultat aux notes métalliques, carbonées et soufrées qui titillent un petit peu les narines et l'imagination. Alors, l'aîné de plus d'un million de visiteurs s'y sont frottés à la cité de l'espace de Toulouse. Si vous l'avez visité, vous avez peut-être vu ça. Et puis, en 2019, il y a une exposition consacrée au 50e anniversaire des premiers pas de l'homme sur la Lune. Alors, cette odeur énigmatique reproduites à partir des descriptions de certains astronautes, évoquent des senteurs connues comme la poudre à canon ou la cendre de cheminée, mais cela ne veut pas dire qu'on en trouve sur la Lune. C'est ce que tempère Xavier Penaud, qui est médiateur scientifique à la Cité de l'Espace à Toulouse, qui est à l'origine de cette idée. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde ne la sent pas de la même manière, en fait, cette odeur. Une odeur, c'est quand une molécule rencontre un capteur au niveau de notre muqueuse olfactive qui va générer un signal, qui va provoquer une sensation chez nous. Et cette sensation, elle est totalement individuelle en fonction de la génétique, en fonction du vécu de chacun. C'est ce qu'explique Michael Moiseff. C'est ça qui est intéressant. Il y a chez l'être humain environ 260 capteurs d'odeur. Et donc, du coup, à partir d'un seul... une seule fragrance, un seul composé, chacun peut ressentir une odeur différente. Son prochain défi à Michael Moiseff, c'est de reconstituer l'odeur de la Joconde, c'est-à-dire un parfum de l'époque de la Renaissance, un travail minutieux d'enquête et de recherche historique. Eh bien, écoutez, on essaiera de suivre ça. Mais donc, vous pouvez vous rendre à la cité, la cité de l'espace. Je vais y arriver si vous habitez du côté de Toulouse ou si vous y passez, bien évidemment. C'est un espace intéressant que je vous invite à découvrir. Ce qui me permet de dire qu'il y a déjà très longtemps dans cette émission que je n'ai pas fait de suggestion de sortie d'exposition. Alors, le contexte actuel ne s'y prêtait pas trop, mais là, maintenant, ça réouvre un peu. Et donc, du coup, il est quand même intéressant de continuer à vous rendre dans des lieux de culture scientifique, des musées, des associations qui vous proposent des expositions, des expériences, des animations, des démonstrations totalement intéressantes sur tous les sujets scientifiques. Donc allez-y, où que vous soyez, il y a quand même toujours un lieu qui va vous accueillir et qui va vous émerveiller. Donc là, on a parlé de la Cité de l'Espace à Toulouse, il y en a bien sûr un peu partout en France et ailleurs d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous rendre dans ces lieux de culture scientifique, ce qui du coup me fait penser qu'il va falloir assez rapidement que nous vous fassions une petite suggestion d'exposition à visiter. On verra ça dans les toutes prochaines émissions de ce mois d'octobre, bien sûr. Des chercheurs de Singapour, alors on va parler de totalement autre chose, des chercheurs de Singapour ont découvert que les pirates informatiques pourraient bientôt être capables de copier la clé de votre maison en utilisant un simple micro de smartphone. Alors déjà, ce genre de phrase, déjà, vous vous effraie. Je dis, attendez, on va copier notre clé à partir d'un micro de smartphone. On n'a pas très bien compris ce qui se passe. En fait, ce sont des chercheurs en sécurité de l'Université nationale de Singapour qui ont mis au point un nouveau modèle d'attaque théorique qui s'appelle SpyKey, donc key, clé, spy, espion, qui pourrait significativement faciliter la vie des cambrioleurs par rapport au, on va dire, crochetage un peu traditionnel des serrures. Alors que de nombreux types de serrures sont vulnérables au cambriolage, elles restent largement utilisé du fait que le crochetage de serrures requiert quand même des techniques spécifiques et des instruments sur mesure. Et donc, des spécialistes en sécurité ont trouvé que les enregistrements audio des sons qui sont produits par une clé fournissaient assez d'informations pour qu'un pirate informatique arrive à en déduire la forme spécifique d'une clé. Et pour ce faire, ils ont enregistré le son produit lorsque la clé était insérée et retirée de la serrure à l'aide donc du micro d'un smartphone. Les chercheurs notent qu'il est extrêmement difficile d'extraire des informations à partir du son pour en déduire la longueur des bords dentelés de la clé, mais ce projet capture et utilise la différence entre chaque son produit par la clé pour estimer le modèle le plus proche justement de cette fameuse clé. Et comme SpyKey déduit la forme de la clé, il est fondamentalement résistant aux fonctionnalités anti-crochetage des serrures modernes, c'est ce que précise cette étude. De plus, les experts en sécurité notent que ce système SpyKey avait réussi dans la plupart des cas à réduire à seulement 3 modèles de clés susceptibles de fonctionner parmi plus de 330 000 modèles potentiels. Mais en tout cas, malgré ces découvertes plutôt alarmantes pour nous quand même, ce nouveau modèle d'attaque pose quand même de nombreux problèmes si on tente de le reproduire en dehors des laboratoires. Le premier, c'est la vitesse à laquelle la clé doit être insérée et extraite. La vitesse doit être constante pour essayer d'établir le modèle de clé à cloner. La distance à laquelle l'enregistrement audio est réalisé pose aussi problème. C'est pourquoi les chercheurs tentent d'étudier en théorie la possibilité d'installer un logiciel malveillant sur le smartphone ou la montre connectée du consommateur dont on voudrait cloner la serrure. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de voir qu'il serait possible de dupliquer une clé à partir du son qu'elle émet dans la serrure. Alors je pense que les prochains films d'espionnage qui vont paraître sur les écrans vont vraisemblablement nous proposer des scénarios sur la base de cette information qui nous vient de ces chercheurs de Singapour. Mon Dieu, on ne sait plus quoi faire en fait. Nous sommes cernés de toutes parts. Heureusement, on va écouter les rois de Suède sur l'antenne de Graphite.
Prends trois blousons et un chapeau et rejoins-moi tant qu'il fait beau. Oh, 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 oh. Je vais te raconter l'histoire de cet intrépide cougar. C'est Porgnoc, Porgnoc, Porgnoc. Porgnoc, 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 l'intrépide cougar. Porgnoc, intrépide cougar qui flotte sur notre étendard, le symbole de notre nation. La Suède se face à l'oppression, Suède sort ses griffes et attaque au visage. Porgnoc, le shérif, il défend tes rivages. Fait attaquer par des aliens et une armée qui tirait des lasers dans les pieds. Alors Porgnoc les a mangés. Un jour Porgnoc va à l'église et voit un bébé qu'on baptise. Le bébé avait un bec de lièvre. Alors Porgnoc il l'a mangé. Un pont et voit des hommes sans pantalon qui lui proposent une douche dorée. Alors Porgnoc les a mangés. Un jour Porgnoc il aide l'OTAN. Pour toi un monstre qui tue des enfants, un monstre qui est fait en excréments. Alors Porgnoc il a mangé les enfants. Fais attaque au visage. Porgnoc le shérif, il défend tes rivages. Porgnoc le shérif défend les enfants sages. Quand il sort de sa cage, rapide comme une image, crustacés et coquillages, et sans peur et sans courage.
Mais Porgnoc, mais qu'est-ce que tu fais dans le noir tout seul? Mais Porgnoc, mais tu pleures?
Eh Gigi, c'est toi là-bas dans le noir? C'est la fête chez les pauvres avec les rois de Suède sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Graphite sur graphite.net et sur la bande FM 94.9. C'est Dalida qu'on vient d'écouter, c'est pas possible. Biotine, l'émission d'actualité scientifique, va nous parler de l'univers. Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? On n'en sait rien. Voilà, c'était la fin. On va parler, en fait, de l'une des 88 constellations de notre ciel, une vaste constellation visible dans l'hémisphère sud et qui s'appelle les Voiles. Et c'est dans cette direction que des chercheurs de l'université Curtin et également des Américains de l'organisation de recherche sur l'industrie scientifique du Commonwealth. Donc on n'est pas non plus aussi avec des Américains, c'est aussi un partenariat avec les Britanniques. Et il y a donc une constellation qui a été un petit peu observée par un radiotélescope situé en Australie. Leur objectif, c'est d'exploiter la puissance avec ces 4000 antennes pour essayer de capter des émissions à des fréquences similaires aux fréquences radio FM 94.9. En fait, ils se sont mis en Australie pour écouter Graphite. Et ce que les astronomes appellent, ce qu'on appelle des technosignatures, c'est-à-dire des indices de la présence d'une civilisation extraterrestre intelligente qui disposerait de technologies semblables aux nôtres dans la région. Alors, rappelons que les chercheurs ont pu observer ce type d'émissions s'échappant de notre Terre. Des sondes de la NASA les ont enregistrées. Elles créent même une sorte de bulle géante autour de notre planète. Et ce qui fait penser aux astronomes que si des civilisations extraterrestres émettent ce genre de signaux, nous devrions pouvoir les capter. Je suis toujours fasciné par ce postulat de départ qui consiste à dire que les extraterrestres devraient avoir la même technologie que nous. Ça se trouve, ils sont hyper en avance. C'est comme si nous, on était en train d'essayer de capter des informations qui viendraient d'un Minitel. Vous voyez, enfin, c'est assez... Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. En tout cas, ce radiotélescope, excusez-moi, est un instrument unique avec un champ de vision extraordinairement large qui nous permet d'observer des millions d'étoiles de façon simultanée. C'est ce qu'explique Shona Tremblay, qui est astronome et qui a donc communiqué sur cette étude. Il y a 10 millions d'étoiles dans ce cas précis qui ont pu être observées, écoutées entre guillemets. Donc, nous avons observé le ciel pendant 17 heures et nous n'avons trouvé aucune de ces fameuses technosignatures. Donc, aucun signe de vie intelligente. Pourtant, il ne faut pas s'y tromper, les chercheurs précisent que même si leur étude est la plus large jamais menée, elle ne porte que sur 10 millions d'étoiles de notre Voie lactée, ce qui est peu comparé aux 100 à 400 milliards d'étoiles que compte notre galaxie. Donc on n'a pas du tout, on ne sait même pas 0,001% en fait qu'on a essayé d'observer et d'écouter. Alors cela équivaut à chercher un objet dans les océans de la Terre en se concentrant sur un volume de l'ordre d'une piscine de jardin, si vous voulez faire des comparaisons. Rien n'est donc perdu, nous dit-on. Par ailleurs, rien ne dit que les civilisations extraterrestres, comme je vous le disais, utilisent les mêmes technologies que nous. Même si c'est le cas, elles pourraient se trouver trop loin de notre Terre pour que nous puissions capter ces fameuses technosignatures. Après tout, nos propres émissions n'ont guère pu voyager pour l'instant qu'à plus de 100 années-lumière de notre planète. Et à une telle distance, elle pourrait bien être devenue totalement indiscernable dans le bruit de fond de l'univers. Nous devons continuer à chercher, c'est ce qu'explique Stephen Tingey, qui est chercheur à l'université Curtin, avec le futur radiotélescope géant qui devrait être capable de détecter des signaux radio de type terrestre provenant de systèmes planétaires relativement proches, notamment 50 fois plus sensible que le radiotélescope qu'on vient d'utiliser. Eh bien, ce radiotélescope géant devrait permettre d'étudier des milliards de systèmes stellaires à la recherche de technosignatures. On est en train de perfectionner la technologie pour essayer d'obtenir davantage d'informations, bien évidemment. Mais pour l'instant, silence radio pour, on peut s'exprimer ainsi quand on est sur Radio Graphite, silence radio pour les 10 millions d'étoiles de la galaxie qu'on a observées. On s'occupera des centaines de milliards d'autres par la suite. Il suffit juste d'avoir, je dirais, la technologie totalement adéquate, bien sûr, pour essayer d'en savoir plus. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a aucune preuve d'une vie extraterrestre, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, c'est que pour l'instant, on a, si elle existe, on n'a pas réussi encore à la capter. Donc ça permet à des nombreux chercheurs scientifiques de poursuivre leurs recherches et d'essayer de parvenir, mon Dieu, si on arrive à capter une technosignature, je ne vous raconte pas ce qui va se faire et se dire. Et là, les films de science-fiction, maintenant, ça sera totalement balayé. On verra. En tout cas, un travail de scientifique, c'est glorieux ou moins, parce que des fois, ça commence par faire les poubelles. C'est en ramassant des cheveux chez les coiffeurs et les barbiers dans différentes villes des États-Unis que James Ellringer et ses collègues ont pu déterminer comment le type d'alimentation diffère en fonction du lieu d'habitation et du statut socio-économique. Les chercheurs se sont notamment intéressés à la consommation de protéines que l'on peut détecter à travers des isotopes de carbone et d'azote. C'est-à-dire que ça donne la signature, entre guillemets, des plantes ou des animaux qui ont été consommés et que l'on peut détecter dans les cheveux. Et donc, plus le ratio carbone-azote est élevé, plus le régime est riche en végétaux. Plus le ratio est bas, plus le régime est donc carboné, donc carné. Les isotopes de carbone permettent aussi de distinguer les végétaux à photosynthèse, c'est-à-dire qu'on peut les distinguer, les herbes, les légumes, les arbres, les graminées, les cannes à sucre et ainsi de suite. Et donc, les chercheurs, ils ont comparé les échantillons avec des données économiques pour étudier la façon dont le statut social et le niveau de vie influent sur l'alimentation. Ils expliquent « Nous avons récolté une ou deux poignées de cheveux chez les coiffeurs que nous avons ensuite triés en groupes identifiables représentant des individus. » Et les chercheurs ont ainsi découvert, par exemple, que le maïs était plus prédominant dans les zones à faible revenu, mais les mangeurs de viande dans ces zones consommant davantage d'animaux nourris au maïs, par exemple, qu'on le retrouve beaucoup dans la nourriture de type fast-food. Et de manière générale, alors que les protéines dérivées de l'animal représentent un peu plus de la moitié du régime alimentaire en moyenne, ce ratio peut aller jusqu'aux trois quarts dans les zones à faible statut socio-économique. En d'autres termes, plus on est pauvre, plus on mange de viande. C'est un petit peu la conclusion de cette étude. Cela peut sembler contre-intuitif vu que la viande est censée être plus chère que les légumes et les céréales. Et en poursuivant leurs investigations, les chercheurs ont découvert que, en fait, il y avait aussi une corrélation avec le taux d'obésité. Ils sont pour cela allés chercher les données des permis de conduire pour calculer les tendances d'indices de masse corporelle pour des codes postaux particuliers. Mon Dieu, c'est quand même assez bizarre cette étude. Et comme on pouvait s'y attendre, les personnes les moins favorisées ont un taux d'obésité supérieur et consomment davantage de protéines de basse qualité. Plus surprenant, l'analyse des échantillons a permis également d'évaluer le prix de la coupe de cheveux. Nous n'avions pas imaginé qu'il serait possible d'estimer le coût moyen qu'un individu paye pour sa coupe en connaissant les valeurs des isotopes de carbone, dit-il. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est un petit peu « donne-moi tes cheveux et je te dirai ce que tu manges ». Et derrière, il y a une étude un petit peu socio-économique pour essayer d'avoir une façon de cartographier la population selon certains critères, à partir des éléments que l'on retrouve dans les cheveux. Alors, à quoi ça sert, vous me direz ? Je n'en sais strictement rien. L'article ne le dit pas également. Si ce n'est que c'est une approche qui est intéressante parce que, en général, quand on veut essayer d'avoir des informations sur la consommation alimentaire, sur les habitudes alimentaires, on est plutôt sur la base du déclaratif, c'est-à-dire qu'on est sur la base de questionnaires. Là, quelque part, il n'y aura pas d'informations biaisées parce que ce qu'il y a dans les cheveux, vous ne pouvez pas dire « non, je ne mange pas telle ou telle chose » alors que vous retrouvez les composés dans les cheveux. L'analyse isotopique des cheveux peut donc constituer une espèce d'outil fiable pour évaluer les risques sanitaires d'une communauté ou pour cerner les choix alimentaires des différents groupes d'âge et des différents groupes socio-économiques. C'est ce qu'indique cette étude. Bref, quand les cheveux parlent, ils ne mentent pas, conclut cette étude de publiée par le site Futura. Mais en tout cas, c'est quand même, je ne sais pas, on ne peut plus maintenant avoir une vie tranquille. Maintenant, on va récupérer des cheveux et on va savoir ce que l'on mange. Je ne sais pas. Et des choses qui m'échappent comme ça. Allez, on va écouter le dernier titre de cette émission et on se quitte juste après.
But would you sing along?
Burns sur l'antenne de Graphite, vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. On va se quitter parce que c'est déjà la fin de cette émission. Ça passe vite, c'est pas possible. Ça passe trop vite. On va parler de cette chose un petit peu légère, mais on a tellement ces dernières semaines depuis la reprise en septembre parlé de sujets assez anxiogènes, dangereux et pas toujours réjouissants qu'on va finir avec le pangolin. Alors le pangolin en 2020, on l'a quand même un peu découvert, hein, et puis ça rime quand même assez forcément avec le coronavirus. Eh bien, pangolin, c'est le nom d'une robe, la robe du futur d'une designer qui est spécialisée dans les vêtements intelligents et elle a décidé de donner ce nom à sa robe du futur. Elle est néerlandaise, elle s'appelle Anouk Wipspret et elle a imaginé un vêtement qui change d'aspect selon votre humeur. Si vous êtes calme, ça va être plutôt un violet pastel. Si vous êtes stressé, eh bien, des lumières scintillent, des petits éléments robotisés qui apparaissent et qui s'agitent. Cette robe est imprimée en 3D. C'est une robe robotisée qui fonctionne avec une sorte de large serre-tête qui vient se positionner sur le haut du crâne. On est dans une interface cerveau-machine. C'est vraiment l'actualité du moment, le cerveau-machine. On avait commencé cette saison avec évidemment ce cochon d'Elon Musk qu'on a observé en train de manger je ne sais quoi dans sa mangeoire et on lui avait intégré une petite puce dans le cerveau et on essayait d'obtenir des informations. On est toujours dans cette interface homme-machine dans le cas de cette robe et cette interface se compose de plus de 1200 capteurs. Des capteurs électroencéphalographie qui ressemblent à des écailles, d'où le nom de pangolin. En fait, on va capter directement les éléments du cerveau et au bout, il y a 64 circuits imprimés directement reliés à la robe. Alors, L'ensemble donne un petit peu l'allure vraiment d'une robe robot, quoi, un petit peu un cyborg, quoi. Chaque signal neurologique détecté par ce casque actionne une espèce de d'écaille qui est posée sur la robe, et comme l'humeur de chacun est individuelle, eh bien l'aspect de la robe est unique et propre à chaque personne. L'autre performance est d'avoir réussi quand même à créer une robe qui reste fine et légère, avec une structure de 3 mm d'épaisseur en nylon. Elle a été présentée en Autriche à l'occasion du festival Ars Electronica, et cette robe a été créée en collaboration avec l'Institut des circuits intégrés de l'Université de Linz et d'une société de neurotechnologie. Alors, cette robe n'a pas vocation à être vendue, non, vous ne l'aurez pas pour Noël, mais il s'agit pour sa créatrice de donner un premier aperçu des vêtements de demain, ces fameux vêtements intelligents qui permettront d'accroître les interactions entre les personnes et leur environnement. C'était déjà la base d'un projet de robe qui était son précédent projet, une espèce de robe araignée équipée de capteurs qui s'animait lorsqu'une personne s'approchait d'un peu trop près. C'est utile pour cette période de distanciation sociale d'avoir cette espèce de robe araignée. Mais là, c'est la robe pangolin qui change de couleur selon votre humeur. Eh bien, écoutez, j'espère que vous étiez serein et enthousiaste à avoir écouté cette émission et que du coup, la couleur de votre robe sera plutôt violet pastel, donc des couleurs douces et apaisantes. On se retrouve samedi prochain pour une prochaine émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. C'était un plaisir pour moi de vous animer ces émissions. On se retrouve samedi prochain en direct. Bonne journée à tous et à bientôt sur l'antenne de Graphite.